Donc ce soir, je vais parler d'un sujet qui a émergé en vous, en tout cas les personnes qui ont pratiqué depuis une semaine. Je vais parler de la peur. Oh. Je crois que c'est une émotion que nous connaissons tous et toutes. On a tous à un moment donné vécu cette émotion ou été sous l'emprise à un moment ou à un autre dans notre vie. Il n'y a aucun doute que s'il y a beaucoup de résistance à être présent, on parle souvent d'aversion. Mais pour moi, il y a vraiment cette dimension peut-être de peur plus que d'aversion. Comprenons bien que une des formes d'aversion est la peur. Peur d'être en présence de soi-même, peur d'être en présence d'un processus qui va dans le sens de l'inconnu. Pour certaines personnes, elle fait vraiment partie de la vie quotidienne. Dans un sutra, il est dit que l'aspirant Bouddha est assis sous un arbre dans la forêt. Comme vous le savez, il pratiquait souvent dehors, les moines. Et à un moment donné, il entend les oiseaux et soudain une branche tombe et il est agité par la peur. À un autre moment, il entend le mouvement des feuilles d'arbustes qui l'entourent et une grande peur surgit en lui. Et naturellement, le sutra dit que lorsqu'il était en position assise, il avait envie de se lever. Lorsqu'il était debout, il avait envie de s'asseoir. Donc, naturellement, de s'enfuir. Mais il est aussi dit un petit peu plus loin dans ce sutra qu'il eut suffisamment de présence pour remarquer sa réaction de peur et il fit exactement l'inverse. Lorsqu'il était assis, il resta assis. Lorsqu'il était debout, il resta debout. Donc, il apprit progressivement à faire face à ses peurs. Maintenant, le sutra ne nous dit pas comment il fit face à ses peurs. Il dit simplement, lorsqu'il était assis, il resta assis. Lorsqu'il était debout, il resta debout. Donc, simplement présent. De la même manière que j'ai pu l'évoquer l'autre soir avec le désir attachement, ceci est de la peur. Il n'y a aucun doute que en présence de la peur, c'est pas si évident que de simplement y faire face. Donc c'est un petit peu ce dont je vais parler ce soir. Pascal dit « La plupart des problèmes de ce monde seraient résolus si les aides pouvaient apprendre à s'asseoir en silence dans une chambre. Ceci donne le courage de se rencontrer en silence dans une chambre. » N'est-ce pas merveilleux que c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons ici même. Nous y sommes et nous avons le courage par moment d'être en présence de ce qui émerge pour nous-mêmes. Et il n'y a aucun doute qu'une certaine compréhension des problèmes émerge de cette intimité de contact. Maintenant, il y a des types de peurs qui sont dans le registre des émotions positives. Et ceci est assez intéressant. Bouddha parle de deux formes de peur qui font des parties vraiment des états mentaux positifs, donc salutaires. Et ils ont vraiment une appellation assez merveilleuse. On dit qu'ils sont les deux gardiens du monde ou les deux grands protecteurs. En pali, c'est Iri et Otapa. Et ce sont des jumeaux et marchent ensemble. Iri est traduit comme « craindre de se faire du mal à soi-même ». En termes plus positifs, c'est « avoir du respect pour soi-même ». et agir à partir de ce sentiment de respect pour soi-même. Otapa est l'autre gardien et il s'agit de craindre de faire du mal à autrui. On peut dire en termes positifs, avoir du respect pour autrui. Donc un exemple tout simple qui naturellement contient ces deux compositions. Si je bois par exemple un peu plus qu'indiqué lors d'une soirée, eh bien je m'abstiens de prendre ma voiture car je représente un danger pour moi-même et peut-être pour autrui. Donc c'est un exemple vraiment très très clair et il n'y a aucun doute que ces deux gardiens ou ces deux formes de respect sont parfois manquantes dans ce monde d'aujourd'hui. Donc le discernement, la sagesse, est à la base de ce type d'émotions salutaires qui me permet à ce moment-là d'agir respectueusement, on peut dire, ou de manière heureuse, bienveillante pour ma propre vie et celle d'autrui. Donc la peur, autrement, est une émotion qui est extrêmement inconfortable, qui se manifeste ou s'exprime la plupart du temps en présence d'un danger réel, concret, et elle peut être tout à fait importante et bienfaitrice lorsqu'elle signale un danger réel. Elle nous met en alerte. On a cette sensibilité corporelle, nous sommes des êtres sensibles, on peut vraiment percevoir que cette dimension-là est présente en nous-mêmes et elle peut nous permettre de prendre soin. Il y a quelque temps, il y avait des voitures qui se sont arrêtées pour me laisser traverser la route. J'étais sur un passage piéton, mais j'ai eu comme un espèce de, je sais pas, un signal d'alerte, on peut dire, de peur qui m'a traversée et je ne me suis pas engagée sur la route. Eh bien, m'en a pris parce qu'une moto est passée tout droit à vive allure. Elle m'a frôlée en passant. J'étais presque en train de m'engager, mais pas encore. Donc, j'étais quand même à la fois sur le trottoir et peut-être un pied sur la route. Et une fois sur le trottoir, à l'abri, j'ai encore ressenti l'effet de cet événement. Il n'y a aucun doute qu'on vit tous des événements comme celui-ci. Donc le signal de la peur nous met en alerte et arrive quelque part d'un espace d'intuition où tout à coup on sent qu'il va y avoir un danger et on se réveille. Et si on a une sensibilité accrue, on va avoir un bon jugement à ce moment-là. Donc c'est fort utile par moment d'avoir ce type de manifestation. Maintenant, il y a beaucoup de fois où la peur surgit et elle n'est pas du tout basée dans des faits concrets. Simplement des faits qui ne sont pas présents ou de l'ordre de la réalité. Et les peurs à ce moment-là sont souvent encombrantes, voire paralysantes. Elles nous empêchent d'être en paix intérieurement et dans notre vie par rapport à autrui. Peur de l'autre, peur de m'engager, peur de la maladie, beaucoup de formes de peur. Nous sommes vraiment assez vulnérables comme êtres humains. Et naturellement, face à l'impermanence qu'on connaît bien, on sait très bien qu'il y a la naissance, et s'il y a naissance, il y a fatalement la mort. Et ceci est notre réalité, notre destiné en quelque sorte. Et en tant qu'être humain, il n'y a aucun doute que ceci, on le sait, cette existence est à un terme, elle est fragile et qu'on n'a aucune idée quand ce terme sera. Et donc plutôt que de nous y préparer, la tendance est de vouloir fuir cette vérité. Elle nous fait peur. Donc il y a beaucoup de types de peurs qui peut-être ont comme source cette dimension-là. Donc ceci naturellement peut nous mettre en présence de quelque chose d'extrêmement inconfortable. Et ça nous met en présence d'une manière tout à fait claire en face de l'inconnu. Le fait d'être vraiment dans cette dimension d'inconnu nous pousse à vouloir fuir, se distraire, s'occuper, s'affairer. Et surtout dans notre partie du monde, c'est toujours tellement fascinant de voir que certaines cultures, cette notion-là est intégrée, elle fait partie du quotidien, de la vie. Il n'y a pas très longtemps, j'étais encore en Asie et vraiment, elle est tout à fait perceptible. Alors que dans nos contrées, on a vraiment tendance à la cacher et la repousser, et la déguiser même. Donc il y a cette dimension de peur de la mort, mais qui, pour ma part, par moments, peut même être un questionnement qui fait que s'il y a cette dimension de peur de la mort, il y a de ce fait la peur de vivre. Car vie, mort, sont vraiment pas à grande distance. Et donc c'est évident que cette dimension de peur de vivre se place au niveau de peur du futur. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Et donc naturellement, l'imaginaire peut être tout à fait prolifique à certains moments et nous met dans ce registre de difficultés intérieures. Donc, quelle que soit notre situation, je crois que lorsqu'on est en présence de la peur et que nous pouvons faire appel à un certain courage dans le sens de ne pas faire croître la peur, mais vraiment pouvoir questionner, se mettre en sa présence, la découvrir, la révéler, la sentir, l'éprouver, si elle est là. À ce moment-là, il y a vraiment une autre manière de pouvoir aller à sa rencontre et ensuite l'intégrer. Et c'est vraiment un des aspects qu'on peut explorer et révéler dans la pratique de la méditation. Une des premières manières qu'on a de pouvoir découvrir ceci, c'est combien de plans, de projets, on fait par rapport au futur pour se rassurer. Combien notre manière de maîtriser et de contrôler par rapport au futur provient de cette dimension de peur qui peut être sous-jacente. Alors c'est très intéressant de voir que ça ne signifie pas du tout qu'on ne fait pas de projet ou de plan. Je crois que c'est tellement juste quelque part, d'avoir un esprit créatif et qui va naturellement être prolifique au niveau de ce qui peut être planifié, mais de découvrir de quel espace cette exploration et cette créativité émergent. Est-ce qu'elle émerge d'un endroit calme, stable, tranquille, où vraiment il y a cet aspect de simplement être dans les projets, ou est-ce qu'il y a sous-jacent cette dimension d'inquiétude qui, à ce moment-là, naturellement, nous déstabilise. Quel que soit le ressenti, on va vraiment pouvoir découvrir au fil de la rencontre que la réalité, comme on l'exprime, est celle de l'instant et que l'imaginaire a une certaine coloration. Et qu'à ce moment-là, on peut naturellement faire des projets, mais qu'ils peuvent aboutir ou non. Et ça nous permet d'être en lien avec ce qui émerge et en même temps une ouverture immense par rapport à l'inconnu, à ce qui pourrait se profiler d'autre que nos plans ou nos idées, nos préconceptions. S'il y a de la peur, généralement, il y a énormément de figement, de cristallisation quelque part, par rapport à vouloir maîtriser le futur quant au projet qu'on pourrait établir. Lorsqu'on commence à être présent, on peut aussi découvrir le fruit de notre imagination. Et je crois que c'est vraiment génial au niveau des pensées qui peuvent émerger dans un espace de silence, combien ces pensées peuvent avoir une certaine coloration et que cette coloration a la teinte de la peur, de l'inquiétude et de reconnaître ceci. D'aller dans le sens de pouvoir découvrir ce que ceci signifie. Donc très facilement, si par exemple, et combien de fois ça m'est arrivé, c'est tellement génial, pour avoir fait de longues retraites pendant de longs mois, si par exemple on a une douleur assez petite qui apparaît dans une partie du corps, aussi simple que ceci. Ça peut vraiment être quelque chose que vous connaissez, que vous avez pu connaître dans votre parcours de méditant, d'avoir une douleur quelque part. Et puis, elle disparaît. Et en imagination, en pensée, avant de même de vous asseoir et de reprendre le coussin, d'usiter le coussin. Et si cette douleur devait revenir dans la prochaine assise? Elle n'est absolument pas présente au moment où vous avez cette pensée. Mais n'y a-t-il pas là la teinte, la coloration d'une certaine forme de peur qui n'est pas perçu comme de la peur, mais comme une pensée. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, perdu dans le contenu. Et il est absolument possible à ce moment-là de prendre conscience de ceci, ce qui ne va pas favoriser peut-être une contraction et un figement quant à ma position et quant au fait de me disposer par rapport à ce que j'ai pu imaginer. À d'autres moments, de manière très claire, il y a une petite douleur qui apparaît dans le corps, qui s'amplifie, et tout d'un coup, on imagine le scénario le pire. La douleur s'agrandit, augmente, on s'imagine avec une impossibilité de se lever, qu'on va finir dans la chaise roulante, comme notre tante qui a eu exactement la même douleur qu'on connaît depuis des années, et qu'on crée un scénario catastrophe et qui à ce moment-là fait que la peur va vraiment remplir tout l'espace. Ceci s'appelle papancha. Papancha signifie prolifération mentale. Une pensée suivie d'une autre pensée, suivie d'une autre pensée, toutes des pensées qui sont des scénarios catastrophes et qui font que la boule de neige va s'amplifier. D'une boule de neige, ça devient quelque chose d'énorme qui grossit, qui grossit, qui grossit et qui naturellement nous fait perdre complètement le contact avec la réalité. Donc le fruit de notre imagination là prend complètement le dessus sur la réalité, et ceci nourrit la peur. Il y a vraiment là une anticipation par rapport au futur, lorsque nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe dans la réalité. Et c'est quelque part le travail de la peur. La peur va agir de cette manière-là. C'est l'ego qui, quelque part, prend cette forme. Et nous croyons, et nous sommes vraiment, quelque part, convaincus que l'histoire racontée, dans ce moment-là, est réelle. Elle prend la place de la réalité. On n'est plus du tout en contact avec l'expérience directe. La plupart du temps, on s'arrête avant et va émerger non pas un contact avec les pensées, mais peut-être un certain malaise physique qui, à ce moment-là, nous agite ou nous irrite et fait qu'on ne va même pas aller dans le sens du scénario catastrophe que je viens de décrire, mais être agité, irrité. Dans un registre de fuite, sans même s'en être rendu compte. La peur est souvent enfouie, cachée à ce moment-là, difficile à ressentir. Et ce qui a la place, c'est de l'agitation, de l'irritation. Et donc à ce moment-là, je crois que c'est très important de rester en présence et de se poser la question, qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui favorise cette agitation? C'est toujours une énergie difficile à ressentir, douloureuse, qui nous pousse à l'extérieur de nous-mêmes. Trungpa dit, le travail méditatif a aussi lieu et surtout lieu lorsque nous sommes en présence de la peur. Pourquoi dit-il ceci? Parce que c'est cette dimension de l'expérience, lorsqu'elle est éprouvée et qu'on peut tranquillement aller dans le sens de ce qui est, qui nous transforme véritablement. Plutôt que laisser les conditionnements habituels prendre le dessus. Quels sont les conditionnements habituels? C'est s'échapper, fuir ou refouler. Et donc la peur, naturellement, c'est un repli, un désir de s'échapper, de s'enfuir, qui va naturellement nous faire agir. Donc la manière dont on agit, c'est justement cette façon de s'agiter, d'être en colère, d'être irrité, ou alors tout simplement d'avoir cette dimension que je connais assez bien, du jugement. Lorsqu'il y a du jugement, il y a souvent sous-jacent une certaine peur. Et pour ma part, c'est tellement fascinant de voir que clairement ces deux dimensions sont très proches. Alors pour chacun, chacune, c'est à explorer, hein, la manière dont ceci se trame. Mais je peux partager uniquement mon expérience personnelle. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une irritation et par moments même une certaine colère qui s'exprime ou irritation partagée, sous-jacent, si je m'arrête et que je fais un temps de pause, je remarque qu'il y a de la peur. Comme si la colère était à un niveau et sous-jacent, il y a la peur. Et ce besoin d'agir, je veux dire, le fait de bouillonnement intérieur ou d'irritation, d'espèce d'évacuation, se manifeste en tant qu'énergie pour fuir ce qu'il y a dessous, qui est généralement de la peur. Donc plutôt que le figement et la paralysie, qui est quelque chose qui est douloureux à ressentir, il est plus facile de l'agir. Donc il y a cette frustration, il y a cette difficulté à être dans la situation présente intérieure par rapport à soi, du coup, projection vers l'extérieur. Alors, ceci est à vérifier pour vous, comme l'a dit le Bouddha, ne croyez aucune de mes paroles, et y passez qu'au vérifier pour vous-même. Ce qu'il a dit d'une manière tout à fait claire et nette. Ne croyez pas à l'enseignement. Tout est à vérifier, examiner pour vous-même, dans votre méditation, dans votre vie, questionner, observer, soyez conscient pour découvrir si c'est vrai. Donc naturellement, l'expérience de la peur peut émerger à des degrés vraiment très variés. Comme toutes les émotions, il y a une composition. Une composition d'éléments physiques et mentaux. Donc il y a vraiment une constellation d'événements. C'est très difficile de cerner ça, c'est de la peur. Parce que c'est vraiment une constellation. Il y a la dimension de sensation physique qui naturellement peut être là ou pas. Et puis il y a tout l'extraordinaire capacité du mental de pouvoir également exprimer ces différents types d'inquiétudes, de soucis, d'angoisses, d'anxiété, et j'en passe. Donc, cette composition est extraordinairement riche, et généralement, en méditation, si on le peut et qu'on a les éléments, il est souhaitable d'explorer, découvrir la dimension physique, tout simplement parce qu'elle est plus tangible. Et de pouvoir demeurer là d'une manière un tout petit peu plus stable pour ressentir ce qui se passe dans ce domaine physique. Ressentir une légère pression dans la poitrine, une forme de crispation dans les épaules ou dans la nuque, des mains moites, le pouls qui s'accélère, des tensions corporelles, des grouillements dans le ventre, quelle que soit la manifestation. Naturellement, ces sensations physiques peuvent également prendre des formes un petit peu plus dramatiques, auquel cas c'est très important de bien se guider, bien s'accompagner. Et j'en parlerai, car il ne s'agit pas du tout de perdre pied, mais vraiment d'avoir une stabilité pour pouvoir aller à la rencontre lorsque il y a la présence d'un type de manifestation comme celui-ci. Je crois que la fois où j'ai pu le mieux percevoir cette dimension en méditation, heureusement, parce que je crois que j'aurais été totalement paniquée si ça était dans un registre de vie normal. J'ai pratiqué en Birmanie pendant plusieurs mois et il s'est trouvé que à un moment donné, il y avait un très gros serpent dans la hutte dans laquelle je méditais. Et j'ai une phobie des serpents. Donc comme toute phobie, c'est clairement la chose qu'il ne fallait pas qu'il y ait dans ma hutte. Mais j'étais présente quand je suis entrée dans la hutte. C'était génial parce que j'ai pu vraiment me rendre compte tout d'abord de la paralysie qui m'a habitée figement et puis ensuite la ressource intérieure de mobilisation tellement ça avait été quelque part un choc que ça m'a mis en présence mais profonde. Pour mobiliser cette énergie et l'activer de la bonne manière et vraiment éprouver ceci d'une façon à ce qu'il y ait une libération de cette énergie vitale plutôt qu'un figement et une crispation. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pu me rendre compte de combien de fois, lorsqu'il y a de la peur, il y a exactement l'inverse. Plutôt que de mobiliser son énergie pour qu'elle puisse circuler, il y a un figement. Et on reste là. Alors que s'il y a vraiment une qualité de présence qui nous permet de rester en contact et dans les grands moments de rencontre comme celle-ci, il y a souvent cette possibilité d'agir de manière juste quelque part, d'avoir la bonne action plutôt que réaction. Donc, cette dimension, on va pouvoir petit à petit la découvrir. Et ce qui est magnifique, c'est que par moment, il y a cette mobilisation dans la pratique. On est disposé à pouvoir aller à la rencontre plutôt que d'éviter. Et dans ces moments-là, il y a vraiment suffisamment de force, quelque part intérieure, de la présence et d'autres types de qualités qui, naturellement, sont là pour nous aider. Et plutôt que de saisir l'expérience, de s'identifier au contenu, on va avoir un autre rapport à l'expérience. Donc, petit à petit, en pratique, on l'apprivoise, la peur. Je crois que vraiment, c'est cette dimension d'apprivoiser la peur et que dans ces cas-là, elle n'a pas cette force d'intimidation. Et lorsqu'on est mobilisé, comme je viens de le décrire, c'est exactement ceci qui se passe. C'est que plutôt que d'être timide et vraiment être en retrait, réagir et se crisper et se figer, il y a une qualité qui fait qu'on relève le défi. Alors, relever le défi, ça peut vouloir dire mille et une choses. Ça peut vouloir dire aller chercher la bienveillance qu'il est nécessaire d'avoir pour justement apprivoiser cette peur. Petit à petit, c'est la présence bienveillante qui est plus forte que l'émotion qui nous perturbe. Et donc, on reste présent. Exactement de la manière dont on a parlé l'aspirant Bouddha qui dit « Lorsqu'il est assis, il demeurera assis. » Donc, il y a vraiment là une capacité tout autre. Et c'est bien sûr dans ces moments où il y a suffisamment d'espace, d'intégration, de possibilités de découverte et de réceptivité, d'ouverture, qu'on va avoir un autre type de rapport que celui qu'on a habituellement. C'est vraiment modifier totalement son habitude, comme s'il y avait un circuit qu'on a tendance à prendre et qui est naturellement la réaction complètement habituelle, le conditionnement, tourner en rond, prendre le même cycle, les mêmes boucles, déjà en prendre conscience, et ensuite avoir un autre type de rapport. Donc, la démarche en méditation, quelle est-elle? La première des choses, c'est vraiment être conscient de la dimension physique, comme je l'ai dit. C'est au niveau des sensations physiques qu'on va pouvoir découvrir la capacité de prendre appui. Non pas appui dans la zone de sensations physiques douloureuses où il y a de la peur, mais prendre appui dans notre zone d'ancrage. Voilà pourquoi, dans ces moments, la zone d'ancrage, si elle a été vraiment rencontrée, qu'elle est tellement présente, qu'elle est source de stabilité, qu'elle a vraiment cette dimension de ressourcement, et voilà pourquoi on dit tellement important, en tout cas pour ma part, ça a été mais vraiment immense, que de demeurer au contact de la zone d'ancrage pour vraiment ressentir que c'est un ancrage. Pas juste quelque chose qu'on rencontre comme ça de temps en temps, puis on va à l'audition, puis à un moment à la sensation corporelle, puis une petite par là. Il y a vraiment un soin établi par rapport à cette zone d'ancrage que lorsqu'il y a des émotions ou des douleurs physiques même qui nous perturbent, eh bien, il y a toujours la possibilité de ressourcement dans cet espace-là. Elle a fonction de moyen habile, elle a fonction de rééquilibrage. Donc, voilà pourquoi, comme Charles l'a dit ce matin, je crois, c'est une zone neutre, donc qui ne présente pas de difficultés particulières. parce qu'il y a vraiment cette dimension de pouvoir être ancré. Et un ancrage, c'est exactement comme quand on est en pleine mer, la mer est agitée, il y a des grosses vagues, et que tout à coup, s'il y a une île, eh bien, on va pouvoir se reposer sur cette île. Donc, l'île, ou reprendre pied quand on est vraiment en pleine mer, puis que tout à coup, on a à nouveau son fond, il y a quelque part quelque chose de l'ordre d'une sécurité. Et surtout si on travaille dans ce registre d'émotions qui sont des émotions qui nous perturbent. Donc, vivre dans cet espace de sensations physiques qui peut contenir de la peur, en étant vraiment conscient de pouvoir toujours revenir rétablir le contact avec le point d'appui que vous avez choisi, que vous avez découvert, que vous... Vraiment, c'est revenir à la maison, quelque part. Donc, si ce sentiment-là est pas encore bien établi, eh bien, à ce moment-là, je vous donne vraiment le soin apporté à rester un petit peu plus en contact avec cette zone d'ancrage que vous choisissez pour vous-même. Donc, première dimension, et du coup, on va naturellement aller dans le sens d'équilibre entre cette zone, on peut dire de perturbation ou de trouble, et le point d'ancrage. Et à bien plaire, vraiment avoir cette dimension de point d'appui qui est la façon dont on peut revenir à quelque chose de plus stable, plus tranquille. Le deuxième point est être conscient de ce qu'on a nommé Vedana, c'est-à-dire du ressenti. Il y a toujours un ressenti agréable, désagréable ou neutre. Là, je viens de parler du ressenti neutre pour le point d'appui qu'on choisit. C'est toujours neutre, dans le sens qu'il n'y a pas d'affect particulier. Et lorsqu'il y a ce ressenti au niveau naturellement d'une émotion comme la peur, on va ressentir la dimension déplaisante. Et cette dimension déplaisante nous donne vraiment quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on prend conscience de l'aspect déplaisant. Et à ce moment-là, on découvre cette dimension déplaisante sans devoir absolument réagir contre. On peut éprouver l'aspect déplaisant et petit à petit se rendre compte, mais c'est déplaisant, c'est juste déplaisant. Au lieu de favoriser une pensée qui naturellement fait que on a peur de la peur. C'est exactement ça qui se passe. C'est que on a peur de la peur. Donc peur de la peur, c'est partir dans l'imagination. On se retire. Donc pour rester un tout petit peu en contact et découvrir, plutôt que d'aller à l'aversion, on va vraiment rester en présence pour peut-être intégrer cette dimension déplaisante. Et c'est simplement déplaisant au niveau de la sensation affective. Donc on fait fluctuer la présence dans ces différents domaines que je viens de décrire. Zone d'ancrage, ressenti peut-être neutre, à un moment donné aller à la rencontre avec les sensations physiques où il peut y avoir de la crispation. Ressenti déplaisant, rétablir le contact avec l'expérience de la zone d'ancrage à nouveau neutre. C'est comme ça que se déroule le processus. Il s'agit bien d'un processus et non pas d'un état à changer. Quand on perçoit vraiment que c'est un processus psychocorporel, on peut dire, ou physique et mental, eh bien il y a cette dimension de pouvoir se rendre compte également du changement, que ça change, qu'il y a de l'impermanence, que ça bouge, que c'est mobile. Et le fait même qu'on qu'on se rende compte de cette mobilité. Il y a cette dimension également que ça peut changer. Donc la confiance vient dans cette dimension de prise de conscience. Ensuite, troisième élément, c'est incorporer l'attitude méditative. Quelle est ma relation en présence de cette peur? Et naturellement, ceci est l'endroit où nous allons, par moment, être en rencontre de l'aversion, plus souvent qu'on a envie, pas avoir envie de ressentir cette peur, il n'y a aucun doute. Donc, les pensées, là, viennent naturellement, elles s'imposent d'elles-mêmes. Hein, parce que l'attitude de ne pas avoir envie, eh bien, c'est souvent peut-être de l'énergie où il y a un retrait, mais il y a généralement des pensées qui accompagnent et qui alimentent la peur. Donc, comment est-ce qu'on alimente la peur? Par le biais des pensées. Présent aux pensées. Et là, à nouveau, c'est tellement riche de pouvoir, par moment, et comme la plupart d'entre vous avez du temps pour découvrir ceci, explorer un petit peu le processus, c'est de vraiment, par moment, découvrir la différence entre être perdu dans le contenu des pensées, c'est-à-dire ce qui me fait peur, apercevoir la pensée, ceci est de la peur. Si c'est l'histoire que je me raconte, et combien je peux fabuler, combien je peux augmenter, accroître la peur en me racontant des histoires. Lorsque je suis en présence de la pensée, je ne suis plus du tout en train de me raconter des histoires. Je me rends compte que c'est une pensée. Et auquel cas, je suis au contact et mon attitude change complètement. Donc, vous pouvez explorer ceci. C'est vraiment une invitation à explorer plutôt qu'à trouver des solutions. Donc, quel type de phrases vont émerger? Eh bien, on se raisonne. Il n'y a vraiment pas de raison d'avoir peur. La plupart du temps, en tout cas, c'est... Pour ma part, c'est vraiment beaucoup, je me raisonne. Et le mental prend le contrôle sur l'expérience. Et donc, je pense que pour nous tous, il y a ces dimensions de raisonnement qui font que plutôt que d'être en présence de ce qu'on éprouve, on essaye de se raisonner. Mais ce n'est pas raisonnable d'avoir peur dans cette situation-là. Et à ce moment-là, on ajoute de la pression à la pression, plutôt que de simplement être dans l'accueil. Et là, naturellement, le mental croit qu'il est plus malin. Et on remet simplement le rendez-vous à plus tard. C'est exactement ça qui se passe. Donc, quelle est mon interprétation? La présence de la peur, elle a une connotation. Peut-être qu'elle me renseigne sur quelque chose de beaucoup plus vital, de beaucoup plus important. À propos du poids, peut-être. Donc, quelle est à ce moment-là la croyance? Et exactement cette dimension où on reste dans l'exploration et un questionnement, se poser une question, dans ces moments-là peut être tout à fait judicieux. Non pas se raisonner pour essayer d'être raisonnable, mais au contraire, percevoir qu'est-ce qui se passe en cet instant. Quelle est ma croyance? Donc, on élève à ce moment-là le niveau d'intérêt, de curiosité, plutôt que de justifier. Ça, c'est très, très important. Au lieu de nous séparer de la réalité, on reste en présence avec une qualité d'investigation qui nous permet d'explorer un petit peu plus profondément ce qui se passe. La peur colore la perception à propos de l'objet, de la peur. Si j'ai de l'anxiété, eh bien, à la place d'un bout de bois par terre, pour ma part, je vais voir un serpent. Alors que naturellement, c'est qu'un bout de bois. Mais on perçoit très bien que la coloration, la teinte de l'esprit ou de la conscience a cette capacité d'imaginer. Donc, toute ma vision du monde va être contenu dans cette peur. Et de ce fait-là, à ce moment-là, le monde est perçu comme étant effrayant. Vraiment effrayant. C'est une vision erronée qui s'inscrit à partir d'une vue fausse, d'une manière de me positionner, de me mettre au monde qui est fausse. Donc on perçoit vraiment cette dimension de pouvoir revenir à la présence qui naturellement nous ancre pour pouvoir être en mesure d'intégrer et d'incorporer tous les aspects que je viens de nommer dans un processus qui naturellement me familiarise un tout petit peu plus avec ce qu'est la peur. Qu'est-ce qu'elle contient ? Qu'est-ce qu'elle a révélé ? Son pouvoir de fascination, son pouvoir d'anéantissement, toutes les dimensions. Et lorsque on commence à découvrir quelque chose, c'est vraiment un cadeau extrêmement précieux, le cadeau de la liberté. Donc ce qui nous est demandé, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile parfois. Et par moments, on a cette capacité. On a envie, on a la motivation, on a l'énergie d'aller voir un petit peu plus loin. À d'autres moments, peut-être pas du tout. Donc je crois que c'est aussi juste de savoir quand on peut commencer à aller dans le sens d'explorer plus profondément ce qui se passe. Rilke dit, ce qui nous est demandé, c'est aimer ce qui est difficile et apprendre à faire face. Dans les difficultés se trouvent nos aides. Pour ma part, la peur est une émotion difficile à aimer, hein. Si je prends cette phrase de Rilke, il y a vraiment là quelque chose encore à explorer, encore à découvrir, à révéler. Et il n'y a aucun doute que dans tout ce registre, un autre aspect qui est certainement extrêmement bénéfique, c'est la dimension de metta. Il est dit que metta, la bienveillance, est l'antidote. Donc, s'il est un antidote par rapport à la peur, c'est metta. Parce que metta rassure. Metta fait du bien. Et metta nous donne cette capacité de pouvoir demeurer ouvert et réceptif plutôt que d'aller dans le sens de s'affoler. Et donner beaucoup de pouvoir à la peur. Donc, c'est une aide. Et on peut, dans ces cas-là, imaginez une phrase qui va naturellement aller à la rencontre de ce qui se passe. Puissais-je recevoir ou m'ouvrir à cette peur? Ou si nous avons besoin de confiance, on peut vraiment aller dans le sens. Puissais-je être rempli de confiance par rapport à cette difficulté? Aller dans le sens de la confiance ou dans le sens d'aise, d'ouverture par rapport à ce qui se passe. En cet instant, c'est vraiment la manière dont on va aller à la rencontre, et pour chacun, chacune, c'est la phrase qui vous porte et qui vous vient de vous-même. Donc, metta, de la même manière que le point d'ancrage, va nous apporter un élément de sécurité, en tout cas, va dans ce sens, qui permet d'être ressourcé par moment. Maintenant, le dernier aspect qui est très important d'intégrer petit à petit et qui se fait de manière assez naturelle lorsqu'il y a vraiment cette qualité de présence, c'est de percevoir qu'on personnalise la peur comme tout autre type d'émotion, comme tout ce qui nous arrive. Quelle réalité a-t-elle lorsque nous la personnalisons? Que veut dire personnaliser? Ben, ça signifie qu'il y a de la saisie. Je me l'approprie. Dès qu'il y a de la saisie, dès qu'il y a de l'identification, il y a une appropriation. Elle devient mienne. C'est ma peur. Et plus il va y avoir de pensées au niveau de ma peur, plus il y a de saisie. Et Achan Sumedho décrit ceci très bien. Lorsque vous êtes en proie à l'exaspération, plutôt que de vous dire « ça y est, je recommence à avoir peur », si vous la voyez en termes personnels, comme la peur dont souffre ma mère ou bien mon père ou encore la mienne, tout devient alors un imbroglio confus de différents personnages, tantôt reliés entre eux, tantôt séparés. Dans ces moments-là, il devient très difficile d'avoir aucune compréhension réelle. Si par contre, je perçois ceci est la peur, c'est seulement cela. La douleur est la douleur, le froid est le froid, la colère est la colère, la peur est la peur. Ce n'est pas la mienne. Ceci est la douleur, est une manière habile qui nous aide à discerner les choses plus clairement, à percevoir la réalité. C'est exactement là, il dit, qu'on peut reconnaître cette expérience de la souffrance comme ceci est la souffrance. Cette souffrance doit être comprise. Voilà tout. Donc petit à petit, lorsqu'il y a ce processus de pleine conscience, de présence totale, c'est évident qu'il y a un être, il y a une conscience qui ressent les choses comme elles sont, quel que soit le type d'expérience, mais il y a vraiment un contact d'intimité tel qu'il n'y a plus de place pour le concept, l'idée, je, c'est moi. Et ceci se passe dans l'espace intuitif d'intuition. Ça ne peut pas se passer dans l'intellect. Parce que l'intellectualisation va naturellement aller dans le sens de s'approprier l'expérience présente, quelle qu'elle soit. Et donc, à partir d'une attitude réceptive et respectueuse, on peut commencer à comprendre la nature d'une sensation, la nature d'une émotion, la nature d'une pensée, comme étant une simple manifestation faisant partie de la globalité, de l'être. Et ceci se passe. Et ça se passe exactement lorsqu'on laisse tomber l'idée, le concept. Donc comment est-ce que on va y arriver? Eh bien, ce n'est pas en essayant de trouver une solution. « Ah, mais comment je vais y arriver, là, à l'absence de saisie, au fait que ce n'est pas personnel ?» Je ne peux pas y réfléchir. Ça se passe. Après coup, on peut se dire « Waouh, c'est dingue, j'étais en présence de la peur, là, et puis, en fait, c'était que de la peur. Il n'y a pas eu mille et une constructions, mille et une difficultés. » Et c'est une évidence que l'identification, par moment, tombe. C'est que l'identification qui tombe. Le concept, si j'enlève le « je », il y a la conscience, la tristesse, ou quelle que soit la colère, la joie, le calme, n'importe quelle expérience, tout type d'expérience. Et à ce moment-là, la véritable nature est l'intimité de contact, la plénitude. Il n'y a plus du tout de problème dans ce rapport. Et c'est ça, la conditionnée. Rien d'autre que ça. Et Alan Watts dit ceci, « L'art d'écouter consiste ni à se laisser emporter avec nonchalance, ni à s'attacher avec inquiétude à chaque expérience. Elle consiste simplement à être sensible à chaque instant. Chaque instant est en neuf, complètement neuf et unique, il dit. À ce moment-là, l'esprit s'ouvre et est parfaitement réceptif. Alan Watts. Donc voilà tout un processus de découverte qui naturellement demande de la pratique et on est là pour pratiquer, donc c'est génial. Je crois que vraiment la rencontre avec l'être que nous sommes demande le plus grand respect et aussi du courage de persévérer, de continuer à cheminer dans le sens souhaité, mais également de vraiment prendre soin quand c'est possible d'aller à la rencontre d'émotions douloureuses comme la peur, quand il y a des espaces de plus grande stabilité, de présence, on peut commencer à aller un tout petit peu à la rencontre de choses un petit peu plus difficiles. Et ça se fait progressivement, pas à pas. Ce qui est vraiment important, c'est de respecter le rythme et le respect des résistances, comme j'en ai parlé l'autre soir. Dans le sens que quand ça coince, c'est exactement là que se passe la méditation, pas ailleurs. Donc, ne pas chercher, mais aller dans le sens de l'accueil. Et à ce moment-là, l'inconditionné, ce n'est pas d'être sans peur. On croit vraiment qu'on a cet idéal. Ah, l'inconditionné, oh, il n'y aura plus jamais de peur. Non, l'inconditionné, ce n'est pas d'être sans peur, mais de ne pas s'identifier et y adhérer quand elle se présente. Et ça, c'est dans l'ordre du possible. Il y a simplement l'identification qui tombe. Et à ce moment-là, il y a liberté. Liberté du conditionnement. L'inconditionné. Voilà, je vais finir avec un petit poème. Vous savez, j'aime la poésie. Et ce soir, c'est un poème de Roger Keith qui a longtemps étudié, observé la peinture d'un peintre japonais qui s'appelle Hokusai. Et il a peint, si vous connaissez peut-être la peinture japonaise, cette grande vague de Kazawaga. Et donc voici le lien. Il s'appelle Hokusai dit. Hokusai dit, regarde attentivement. Il dit, sois attentif. Observe. Il dit, continue à regarder. Reste curieux. Il dit qu'il n'y a pas de fin à l'acte de regarder. Il dit, aie hâte de vieillir. Il dit, n'arrête pas de changer, de devenir un peu plus celui que tu es déjà. Il dit, bute, accepte de buter. Recommence, aussi longtemps que cela présentera un intérêt. Il dit, continue à faire ce que tu aimes. Il dit, continue de prier. Il dit que chacun de nous est un enfant. Chacun de nous est un vieillard. Chacun de nous a un corps. Il dit que chacun de nous a peur. Il dit que chacun de nous doit trouver un moyen de vivre avec la peur. Il dit que tout est vivant. Les coquillages, les maisons, les gens, les poissons, les montagnes, les arbres. Le bois est vivant. L'eau est vivante. Tout a sa propre vie. Tout vit en nous. Il dit, vis le monde qui est en toi. Il dit, peu importe que tu dessines, que tu écrives des livres, peu importe que tu scies le bois ou que tu pêches des poissons, peu importe que tu restes chez toi à regarder les fourmis sur la terrasse, les ombres dans les arbres et les herbes de ton jardin. L'important, c'est que tu t'impliques. L'important, c'est que tu ressentes. L'important, c'est que tu remarques. L'important, c'est que la vie vive à travers toi. La sérénité, c'est la vie qui vit à travers toi. La joie, c'est la vie qui vit à travers toi. La satisfaction et la force, c'est la vie qui vit à travers toi. La paix, c'est la vie qui vit à travers toi. Il dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Regarde, sens. Laisse la vie te prendre par la main. Laisse la vie vivre à travers toi.